XVIIIe. Premier rapport de Calvin avec les libertins et avec Servet. Été 1534. De la Forge recevait volontiers les étrangers pieux qui venaient à Paris. Un jour, Calvin vit à la table de son ami certains individus qui lui semblaient étranges. Son regard se fixa sur eux et il chercha à les deviner. L'un d'eux, nommé Copin de Lille, homme du bas peuple, sans culture, mais dont l'audace surpassait l'ignorance, élevait la voix, affectait un langage sentencieux et parlait comme un oracle. « Vraiment, disait Calvin, un fol ne doute de rien. » Un peu plus loin se trouvait un nommé Quintin du Hainaut, qui semblait avoir plus de culture, mais surtout plus de ruse. Il prenait des airs de supériorité, un ton imposant, et s'exprimant d'une manière ambiguë, se donnait les airs d'un prophète. « Celui-ci me semble un fier vilain, » dit Calvin de ce personnage. Quintin se trouvait habituellement entouré de quelques disciples, hommes ignorants et fanatiques, qui répétaient tout ce qu'il disait. C'était Bertrand des Moulins, Claude Perceval et d'autres. Ces hardis et aventureux sectaires, n'ayant rien et ne travaillant pas, cherchaient partout où ils allaient quelques bons personnages qui les entretint dans leur oisiveté en leur baillant leur repas. Ils se fourraient dans la maison par de doux alléchements, sans exposer tout d'abord leur doctrine particulière qu'ils réservaient pour les initiés. Ils s'appliquaient à gagner ceux qui les écoutaient, et pour cela, ils parlaient sans cesse du Saint-Esprit et cherchaient à faire croire qu'ils en étaient les apôtres. Des âmes simples s'y laissaient prendre. Elles auraient cru commettre le péché irrémissible si elles n'avaient pas regardé ces personnages comme des saints. Un jour qu'il y avait grande compagnie chez De La Forge, Quintin commença à endoctriner l'assemblée. Quel que fût le sujet de la conversation, l'esprit paraissait aussitôt. Calvin perdit patience. « Vous faites comme certains curés de village, dit-il, qui, n'ayant qu'un seul marmouset, statuette, dans leur église, le font servir à cinq ou six saints. Il est ou Saint-Jacques, ou Saint-François, ou Saint-Basile, et le prêtre reçoit autant d'offrandes qu'il y a de saints. » Parfois, cependant, les spirituels, c'était leur nom, se trahissaient et laissaient échapper leur doctrine fanatique. « Il n'y a pas beaucoup d'esprits, dit Quintin, il n'y a qu'un seul esprit de Dieu qui est et vit dans toutes les créatures. C'est cet unique esprit qui fait tout. L'homme n'a aucune volonté, pas plus que s'il était une pierre. » Ces paroles étonnaient Calvin. Il examina de plus près ces prophètes étranges et découvrit en eux de capitales erreurs. « Le Saint-Esprit, c'est notre raison, disaient quelques-uns. Et cet esprit nous apprend qu'il n'y a ni condamnation ni enfer. L'âme, disaient d'autres, est matérielle et mortelle. Dieu est tout, s'écriait Quintin, et tout est Dieu. À ce système se joignaient des doctrines immorales. La conscience de Calvin fut effrayée. Il s'était levé pour abattre un échafaudage vermoulu que les hommes avaient appliqué au temple de Dieu, et maintenant, des mains téméraires prétendaient abattre le temple même. Il ne voulait détruire les traditions superstitieuses de tant de siècles que pour mettre à la place les vérités divines du siècle des apôtres. Et tout à coup, il se trouvait en présence d'hommes qui ne voulaient d'autre Dieu que la nature et changeaient le monde en un vaste désert. Calvin ne se séparait pas de Rome pour être moins chrétien, mais pour l'être davantage. Il attaquera donc ceux qui, sous le voile du protestantisme, suppriment les mystères de la foi. Il combattra avec la même rudesse le pape et les sectaires, et s'il s'applique à détruire les fables des hommes, il s'efforcera encore plus de conserver les révélations de Dieu. Luther ne s'est-il pas écrié en parlant de ses soi-disant spirituels « C'est le diable qui cherche à vous détourner de la vérité, tournez le dos à ces bavards. » Diverses circonstances qui se passèrent alors sous les yeux de Calvin lui firent comprendre toujours mieux la nécessité de s'opposer énergiquement à cette doctrine menaçante. Un jour, un homme venait d'être assassiné dans une rue de Paris. Une grande foule entourait le corps. « Hélas, qui a commis ce crime ?» s'écria un chrétien pieux. Quintin, qui était aussi là, répondit aussitôt en son langage picard. « Puisque tu veux le savoir, ça a été mis. » L'autre étonné lui dit « Quoi, seriez-vous si lâche ?»«
Ce n'est pas mis, » répliqua Quintin, « c'est Dieu !»«
Comment, » reprit l'interlocuteur, « vous imputez à Dieu le crime qu'il punit ?» Alors ce malheureux, dégorgeant plus fort son venin, poursuivit «
Oui, c'est ti, c'est mi, c'est Dieu. Car ce que ti ou mi faisons, c'est Dieu qui le fait, et ce que Dieu fait, nous le faisons. »
Un autre fait analogue se présenta bientôt à Calvin dans la maison même de son ami. Delaforge avait un domestique auquel il donnait de forts gages. Cet homme, qui volait son maître, se sauva en emportant de l'argent. Un cordonnier du voisinage, qui tenait les doctrines de Quintin, étant venu le même jour chez le marchand, le trouva fort inquiet. Celui qui a fait une si méchante action, disait-il, pourrait bien abuser de mon crédit et emprunter en mon nom. Alors, raconte Calvin, mon cordonnier incontinent de se guinder sur ses ailes, de voler par-dessus les nues et de s'écrier « C'est blasphémer Dieu que d'appeler cette action méchante. Puisque Dieu fait tout, on ne doit rien estimer mauvais. » Quelques jours après, ce philosophe, le cordonnier, fut aussi volé par un domestique. Oubliant aussitôt toute sa science spirituelle, il sortit comme frénétique pour en avoir des nouvelles, et en arrivant chez Delaforge, il jeta force injures contre le larron. Delaforge lui répéta avec ironie ses propres paroles. « Mais vous accusez Dieu, dit-il, puisque c'est lui qui a fait cette action. » Le cordonnier confondu se retira et s'en alla tout peneux, la queue entre les jambes. Calvin commença la lutte. Ce ne fut pas avec la philosophie, la spéculation, l'apologétique qu'il combattit ces spiritualistes prétendus. « Dieu, dit-il, nous éclaire suffisamment dans les Écritures. C'est le manque de les savoir qui est la cause et la source de toutes les erreurs. » Il attaqua Quintin et le pressa vivement. Il citait les commandements de Dieu contre le vol, contre le meurtre. « Vous appelez Dieu impur, disait-il, larron, brigand. Vous ajoutez qu'il n'y a pas de mal en tout cela. » Qui donc a condamné l'impureté, le larcin, le meurtre, si ce n'est Dieu ? Quentin, qui d'ordinaire mettait en avant beaucoup de paroles de l'Écriture, répondit en souriant « Nous ne sommes pas soumis à la lettre qui tue, mais à l'esprit qui vivifie. La Bible contient des allégories, des mythes dont l'esprit nous donne le sens. » « Ah !» s'écria Calvin, « vous faites de l'Écriture un nez de cire et vous jouez avec elle comme avec une paume. »«
Vous trouvez mon propos mauvais, faute de l'entendre, » dit Quintin.
« J'en entends un peu plus que vous, » reprit Calvin, « et je vois clairement que vous voulez en babouiner, séduire, le monde par des folies absurdes et dangereuses. » Les spirituels étaient tour à tour protestants et catholiques comme il leur convenait. Cette manière de voir allait avec leur panthéisme et ils se fussent trouvés tout aussi à leur aise parmi les hindous et parmi les turcs. Cette largeur qui séduisait le parti du juste milieu scandalisait Calvin. Un jour, Quintin disait avec ravissement « Je sors d'une messe solennelle célébrée par un cardinal. J'ai vu la gloire de Dieu. »
« J'y suis, » dit un peu crûment Calvin. Selon vous, un chanoine doit demeurer en sa mollesse et en moine en son couvent comme un pourceau dans son auge.
Les panthéistes faisaient des prosélytes. À force de brasser et de pratiquer, ils attiraient de pauvres simples idiots qu'ils rendaient aussi paresseux qu'eux-mêmes. Ils cherchaient à s'insinuer auprès des savants, des grands et même à se glisser dans le cœur des princes. Leur haute prétention à la spiritualité ébranlait les esprits faibles et le principe commode, en vertu duquel chacun devait rester dans l'église où il se trouvait, fut elle-même plongée dans l'erreur, faisait pencher de leur côté les âmes timides et irrésolues.
un prêtre qui était devenu le principal compagnon d'armes de Quintin, Poquet, parvint à tromper l'excellent Bucer au moyen des fausses apparences qu'il revêtait. Et 10 ans plus tard, une âme d'élite, Marguerite, fut éblouie et déçue par leur hypocrite spiritualité. 4 000 personnes environ furent séduites en France. Calvin n'était pas de ces esprits qui demeurent en branle et en suspens. Dès le premier moment, il reconnut le panthéisme et le matérialisme sous les voiles où ces hommes cherchaient parfois à cacher ses erreurs, et il les signala courageusement. La droiture, la franchise de Calvin formaient le contraste le plus frappant avec la dissimulation et la ruse des spirituels. « Ils retournent leurs robes à tout propos, disait-il, tellement qu'on ne sait par où les prendre. » Un des principaux articles de leur théologie est qu'il faut se contrefaire, tandis que les païens même ont dit qu'il vaut mieux être un lion qu'un renard. Ils trouvaient leurs doctrines impies et subversives. Confondre Dieu et le monde, c'était, pensait-il, ôter du monde le Dieu vivant, personnel, qui est présent au milieu de nous, exposer par conséquent à une ruine totale, non seulement la réformation, le christianisme, mais la société tout entière. La conduite, enfin, de ces prétendus spirituels suffisait déjà à ses yeux pour caractériser et condamner leur système. Ce qui a transmué Quintin et ses compagnons, de tailleurs en docteurs, dit Calvin, c'est qu'aimant être nourris et à leur aise, plus que de travailler, ils trouvent commode de gagner leur vie à jaser, comme les prêtres et les moines à chanter. Ce ne fut que plus tard que Calvin composa son beau traité contre les libertins, mais, dit Théodore de Bèze, ce fut alors, pendant son séjour à Paris, qu'il rembarra pour la première fois ces docteurs qui ont renouvelé de notre temps l'abominable secte des carpocratiens, ôtant toute différence entre le bien et le mal. Il rencontra une doctrine plus redoutable peut-être. On voyait alors paraître quelquefois, rarement, dans de petits cercles de Paris, un étranger dont les allures étaient un peu mystérieuses. Plusieurs en parlaient avec éloge. On ne pouvait, disait-on, lui reprocher des tendances immorales, et sa subtile intelligence, son brillant génie, sa science profonde dans les choses de la nature, son imagination fougueuse semblait devoir faire de lui l'un des maîtres les plus influents et les plus étonnants de cette époque. Michel Servet, c'était son nom, était de l'âge de Calvin. Né à Villanueva, en Aragon, il avait étudié le droit à Toulouse et avait plus tard publié un écrit audacieux intitulé « Des erreurs de la Trinité ». Il se posait dans le monde comme le docteur de la vérité et le réformateur complet. Les grands mystères de la foi devaient faire place à un certain panthéisme revêtu de formes mystiques et sabelliennes. Ce n'était pas seulement le catholicisme romain qu'il voulait réformer, c'était la réformation évangélique elle-même, substituant à son caractère scripturaire et pratique une tendance philosophique et rationaliste. Pour accomplir cette transformation du protestantisme, Servet commença par se présenter aux réformateurs de la Suisse allemande et de l'Allemagne. Écolampade, l'ayant examiné, déclara qu'il ne pouvait le tenir pour chrétien que s'il reconnaissait le Fils comme ayant part de toute éternité à la réelle divinité du Père. Mélenchon, à l'ouïe de ses doctrines, fut effrayé. « Ses imaginations sont confuses, dit-il. Ses idées sont obscures, il y a en lui beaucoup de marques d'un esprit fanatique. Il extravague quant à la justification et quant à la Trinité. Oh mon Dieu, quelle tragédie cette question suscitera jusque dans la postérité la plus reculée !» On comprend l'impression douloureuse que fit Servet sur ces deux hommes les plus tolérants du XVIe siècle. Il était, nous l'avons dit, un rationaliste mystique. Or, le rationalisme et le protestantisme, que plusieurs confondent, sont deux pôles opposés. Rien n'excitait plus l'indignation des réformateurs que cet orgueil de la raison humaine, qui prétend toute seule expliquer Dieu et accomplir sans lui le renouvellement moral de l'homme. Le docteur espagnol, se voyant ainsi repoussé des pays allemands, quitta ses contrées, irrité, navré, et en s'écriant « Que le Seigneur perde tous les tyrans de l'Église. Amen. » Il se rendit à Paris sous le nom de Michel de Villeneuve. Servet avait son but en allant en France. S'il parvenait à planter son drapeau dans ce pays puissant, près de cette université qui était depuis tant de siècles la maîtresse des intelligences, son triomphe était, pensait-il, assuré. Il laissa volontiers l'Allemagne aux Allemands. Cette nation française, qui a en partage l'universalité, qui réussit à tout, qui est si intelligente, si ouverte, si communicative, si pratique, si active, c'est elle qu'il choisit pour être organe de la seconde réformation. Servet se disait que les réformés français étaient plus hardis que ceux de la Saxe. On lui parlait d'un jeune docteur doué d'un grand esprit qui voulait pousser la réforme plus loin que Luther. Servet crut avoir trouvé son homme. L'Espagnol se trompait. Cet homme-là était au-dessus de ses vaines théories. Calvin ne pouvait et ne voulait avoir d'autre Dieu que celui qui nous donne l'existence, celui qui nous rachète, celui qui nous sanctifie, le Père, Dieu au-dessus de nous, le Fils, Dieu pour nous, le Saint-Esprit, Dieu en nous. Ce triple rapport avec Dieu que l'Écriture sainte lui révélait et qui satisfaisait pleinement son sentiment intime, lui faisait reconnaître en Dieu une différence. Mais d'un autre côté, l'unité étant essentielle à la divinité, il devait à tout prix la maintenir et il se sentait ainsi contraint d'embrasser l'idée d'une trinité divine. Or, c'était contre cette doctrine que Servet dirigeait ses plus amères satires. L'Espagnol rejetait ce qu'il nommait une trinité imaginaire. Il appelait ceux qui en faisaient l'expression de leur foi des trités ou même des athées et déblatérait contre eux. Jésus est homme, disait-il. La divinité lui est communiquée par grâce, mais il n'est pas Dieu par nature. Le Père seul est Dieu dans ce sens-là. Il invita Calvin à une conférence. Rempli et ravi de son système, il se croyait sûr de le convaincre et se flattait d'en faire son collaborateur. La chose n'était pas facile. La Réformation se proposait d'élever un temple spirituel où les âmes agitées trouvassent un asile, et Calvin voyait des mains téméraires prétendre en faire un réceptacle pour toutes les erreurs et, selon son expression énergique, un coupe-gorge pour tuer les âmes. Il se levait donc pour maintenir la doctrine apostolique et soutenait que le Christ s'appelait lui-même le Fils unique de Dieu, était fils, non comme les croyants à cause de l'adoption, non comme les anges à cause de leur communion avec le Seigneur, mais dans un sens propre, et que si le Fils d'un homme a la nature d'un homme comme son Père, Jésus, Fils unique de Dieu, a de même la nature de Dieu. Cette question préoccupait vivement alors les esprits. Servet n'était pas seul de son bord. D'autres docteurs, Heiser, Denck, Campanus, Joris, avaient professé des erreurs analogues. Un cri universel s'était fait entendre parmi les réformateurs quand ils avaient vu la divinité de Christ attaquée. Luther avait déclaré que cette petite étincelle causerait un grand incendie. Zwingli avait demandé qu'on s'opposât de toute force à cette doctrine fausse, méchante et pernicieuse. Le modéré Bucer, lui-même, oubliant sa douceur chrétienne, était allé jusqu'à dire du haut de la chaire qu'un homme tel que Servet méritait d'avoir les entrailles arrachées et le corps mis en pièces. Calvin résolut d'accepter l'invitation de Servet. Ces deux jeunes hommes, nés la même année, doués l'un et l'autre d'un merveilleux génie, inébranlables dans leurs convictions, vont entrer en lice. Quel coup ils vont se porter ! Quel combat ! Lequel en sortira vainqueur ? Si Luther, si Zwingli, si Bucer sont tellement animés, que sera Calvin ? Il fut de tous celui qui montra à l'égard de Servet les sentiments les plus modérés. Hélas, que n'a-t-il fait de même jusqu'à la fin ? « Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir Servet, dit-il. Si je me produis en public, j'expose, je le sais, ma vie. Mais je ne veux rien épargner pour l'amener à des sentiments tels que tous les hommes pieux puissent lui serrer cordialement la main. » L'équité demande que l'on tienne compte de ces sentiments de Calvin à l'égard de Servet. La discussion fut donc résolue et un certain nombre d'amis furent choisis pour y assister. On convint du temps et du lieu. Et le jour arrivé, Calvin quitta la demeure de Delaforge, descendit la rue Saint-Martin, arriva à celle de Saint-Antoine et se trouva à l'heure convenue dans une maison de cette rue qui avait été désignée pour le colloque. Servet n'y était pas encore. Calvin l'attendit. L'espagnol ne paraissait pas, le français prenait patience. D'où venait ce retard? Le lieutenant Morin aurait-il connaissance de la dispute et se préparerait-il à prendre d'un même coup de filet les deux jeunes chefs? Après avoir attendu longtemps inutilement, Calvin se retira. Servet, qui vivait comme catholique au milieu des catholiques et ne se faisait aucun scrupule de prendre part au culte de l'Église romaine, craignit probablement qu'une discussion publique avec Calvin ne le fît connaître et ne l'exposât à de graves dangers. Toutefois, la provocation de Servet ne fut pas sans conséquence. Il avait appelé Calvin un champ clos, il avait fait le champion de la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'occasion de répondre à ce défi se présenta 20 ans plus tard à Genève. Si la lutte s'était bornée alors à une discussion savante entre ces deux grands esprits, elle eût été légitime. Servet l'avait lui-même provoquée. Mais les idées du temps, auxquelles malheureusement Calvin, tout en demandant un adoucissement dans la forme, ne sut pourtant pas se soustraire, entraînèrent l'une de ces funestes catastrophes, si fréquentes pendant une longue suite de siècles dans les annales de Rome, et qui ne comptent, grâce à Dieu, que ce seul exemple dans celle de la Réformation. Calvin ne combattait pas seulement avec la parole, il hâtait alors l'impression du premier de ses écrits théologiques. C'était le livre dirigé contre ceux qui disaient que l'âme n'était que le mouvement des poumons et que, si elle avait été douée d'immortalité lors de la création, elle en avait été privée par la chute. Réprimons ces gens qui assassinent les âmes sans paraître leur faire de blessure, avait-il dit, et il avait composé un ouvrage sur l'immortalité des âmes. C'est le titre qu'il lui donna dans une lettre écrite à Fabry. Il est à regretter qu'on lui ait substitué le titre un peu barbare de Psychopaniki, la nuit ou le sommeil de l'âme. Le premier indique plus clairement le sujet. Toutefois, il y combattait aussi l'opinion de ces hommes de bien, comme il les appelle, selon lesquels l'âme dormait jusqu'au dernier jugement. La première édition de cet écrit, qui porte le millésime 1534 Paris, parut probablement aussitôt après que Calvin eut quitté cette ville, peut-être peu avant son départ. Cet ouvrage lui assigna une place à part dans le rang des réformateurs. Il manifesta dans ce premier traité théologique le caractère qui le distinguerait et que ceux qui l'entouraient avaient déjà pu reconnaître dans ses conversations. Sa théologie ne serait pas négative, mais avant tout positive. Son premier ouvrage ne combat pas les erreurs de Rome. Il s'y pose comme le défenseur de l'âme, comme l'avocat du spiritualisme chrétien. Il sera, comme l'a dit un grand historien, Jean de Müller, l'homme appelé à édifier la citadelle du Seigneur dont Luther avait posé le fondement. La force des convictions, le poids des preuves, la puissance avec laquelle il faisait usage de la Sainte Écriture, la simplicité et la lucidité du style frappèrent les lecteurs. Nous ne parlerons pas ici de Calvin comme écrivain, nous l'avons fait ailleurs. On pourrait toutefois remarquer dans cet écrit un défaut dont Calvin ne se corrigea jamais entièrement. Il y avait des dédains énergiques et des invectives amères. Il le reconnut. Il fit plus, il adoucit ses expressions dans la seconde édition. « J'ai dit certaines choses, écrivait-il en parlant de la première, avec une âpreté et une âcreté qui ont pu écorcher certaines oreilles douillettes. J'ai donc supprimé ici quelques passages, j'en ai ajouté d'autres. J'en ai changé plusieurs. » Ceci n'empêcha pas qu'il ne retomba plus tard dans cette faute, qui était, il faut le dire, celle du siècle. Malgré ses fréquents débats, Calvin était heureux dans la maison de Delaforge. Accoutumé à vivre de peu, il n'était guère touché par l'affluence de toutes sortes de biens qu'il y rencontrait. mais la piété de cette famille le rendait joyeux. Il aimait à voir le marchand répandre les évangiles, secourir les pauvres, écouter les interprétations de la parole divine, et il jouissait de sa conversation chrétienne. Certainement, disait-il, la vraie félicité n'est pas enclose dans les étroites bornes de cette vie caduque, et pourtant Dieu promet aussi aux fidèles, en ce pèlerinage et habitation terrienne, une vie heureuse, autant que la condition du monde peut le souffrir. Mais le bonheur de cette maison si bénie ne devait pas être de longue durée. Le cruel lieutenant criminel Morin devait bientôt y entrer, jeter la femme en prison, conduire le mari à l'échafaud et faire succéder à la félicité paisible d'une famille chrétienne la douleur, les cris et les larmes. De la Forge serait-il le seul immolé ? Serait-ce même sur lui que se porteraient les premiers coups ? Ne serait-ce pas sur Calvin, l'auteur de ce discours hardi qui avait bouleversé l'université et la ville ? L'ami du recteur Cope pouvait-il rester dans la capitale sans exciter de nouveau l'attention des persécuteurs ? Une grande persécution allait éclater, et si Calvin avait encore habité la rue Saint-Martin à cette époque, il eût sans doute été saisi avec le pieux marchand, brûlé comme les autres martyrs, et l'histoire de sa vie se fut réduite à un paragraphe dans les simples récits du martyrologue de Crespin. Mais le Père qui est au ciel ne permit pas que ce passereau tombât alors en terre. Calvin avait de puissants motifs qui le pressaient de quitter la France. La vie de Paris était pour lui tellement remplie de visites, d'entretiens, d'occupations, de distractions, qu'il succombait sous la peine sans pouvoir s'acquitter de ce qu'il regardait comme son premier devoir. Il était appelé à être docteur plutôt que simple évangéliste. Pour accomplir la grande tâche qui lui était imposée, il avait besoin de repos, de loisirs, d'études, puis d'entretiens et de conférences avec d'autres théologiens. Il prit donc une grande résolution. « Je laisserai le pays de France, dit-il, et je m'en irai en Allemagne afin d'y trouver dans quelque coin obscur un repos qu'on me refuse ailleurs. » Du Tillet était décidé de l'accompagner. Les deux amis firent leurs préparatifs, ils se procurèrent deux chevaux et deux valets, et un jour, vers la fin de juillet, Calvin dit adieu à ce pieux marchand qui avait été pour lui comme un frère. Les hardes furent mises dans les valises. L'argent fut caché dans l'une d'elles et elles furent attachées sur la croupe des chevaux. Puis les quatre voyageurs partirent, les deux maîtres à cheval, les deux valets à pied. Arrivé sur les frontières, dit un historien catholique, Calvin ne put contenir son émotion. Il éleva la voix, il s'affligea que la France rejeta les hommes que Dieu lui envoyait et chercha même à les étouffer. Cette exclamation nous paraît douteuse. L'historien qui la rapporte n'est pas toujours exact. Toutefois, elle est possible et n'a rien que de naturel. Les voyageurs étant entrés en Lorraine, s'arrêtèrent à Delme près de Nancy. Ils descendirent de cheval et firent quelques pas dans la ville. Pendant ce temps, un de leurs valets, qui savait où l'argent avait été mis, profita de l'absence de ses maîtres, plaça le sac sur le meilleur des deux chevaux et partit à bride abattue. Calvin et Du Tillet, étant revenus, s'aperçurent du vol. En vain voulut-on poursuivre le voleur, on ne put l'atteindre. Les deux amis étaient ainsi dans un grand embarras. Le second des deux valets s'approcha et leur offrit 10 écus qu'il avait sur lui. Ils acceptèrent et purent atteindre Strasbourg. Jamais Calvin, s'il fut resté dans sa patrie, n'eût pu fournir la carrière à laquelle il était appelé. Il n'avait là d'autre perspective que le bûcher. Et pourtant, ce sera bien lui qui en sera le réformateur. Il la quitta, il est vrai, mais une main divine le fixa aussi près que possible de cette terre de ses affections et de ses douleurs. Des lieux pittoresques, d'où le Rhône apporte sans cesse à la France ses flots, Dieu allait répandre par Calvin sur toutes les provinces de ce grand royaume les eaux vives de l'Évangile de Christ.